CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Le MAG du pays Midi-Quercy, une émission soutenue par le programme européen Leader et réalisée à CFM Caylus. Bonjour à tous et merci d'être avec nous dans ce MAG du pays Midi-Quercy à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Ce vendredi 16 septembre à 20h, le service inventaire du patrimoine du PETR du pays Midi-Quercy, la région Occitanie et Extra Art, appuyé par les archives départementales du Tarn-et-Garonne, présente dans l'auditorium du Centre d'art La Cuisine une conférence inaugurale autour d'un travail de conception et réalisation d'une visite interactive scénarisée du château de Longzeg à Nègrepelisse. C'est le sujet du MAG d'aujourd'hui. Bonjour Christelle.
Bonjour Lisa.
Christelle Parvillier, la chargée de projet médiation numérique, culture et patrimoine de la région Occitanie. Vous pouvez nous parler un petit peu de cette volonté de la région de renouveler l'offre, la manière de présenter un édifice?
Oui, alors nous menons à la région, enfin plus précisément à la direction de la culture et du patrimoine de la région, différents projets qui s'inscrivent dans le cadre de la nouvelle stratégie votée par les élus en décembre dernier. Et donc nous avons pour ça un site internet qui est dédié au patrimoine régional, dans lequel nous publions différents produits multimédia, on va dire, qui ont pour objectif de valoriser le patrimoine de la région et qui se basent essentiellement sur toutes les recherches menée par les chercheurs de l'inventaire du patrimoine. Et donc, dans le cadre de ces productions, on va retrouver des visites virtuelles, interactives, on va retrouver les cartographies aussi interactives qui proposent par exemple des parcours, et aussi un petit peu nos dernières productions qui s'inspirent et qui se basent vraiment sur les nouvelles pratiques numériques et qu'on appelle les nouvelles narrations, qui sont des narrations interactives et qui, en fait, ont pour objectif de vraiment raconter des histoires, raconter l'histoire du patrimoine, raconter l'histoire d'un bâtiment, en fait. Et c'est ce qu'on fait là, dans le cadre de ce projet dont il est question à Nègrepelisse.
Vous avez travaillé en étroite collaboration avec notamment le service inventaire du patrimoine du pays Midi-Quercy pour valider chaque étape. Et des étapes, il y en a eu un sacré paquet.
Oui, tout à fait. Donc la région est en convention avec le pays de Midi-Quercy pour mener l'inventaire du patrimoine sur le territoire. Et il y a aussi dans cette convention un objectif de valorisation. Et donc suite à l'inventaire qui a été fait du château de Longzeg à Nègrepelisse, on a choisi de mettre en place un produit de valorisation, un produit numérique de valorisation sur ce château-là qui n'est pas accessible au public. Et donc voilà, ça fait maintenant un an qu'on travaille sur ce projet avec effectivement de grands échanges entre le chercheur du pays de Midi-Quercy, entre aussi les archives départementales qui nous ont beaucoup, beaucoup aidés aussi dans ce projet et qui hébergent un fonds exceptionnel sur le château. Et notre prestataire, bien sûr, que nous avons sélectionné dans le cadre d'un marché public passé l'année dernière.
Un an de travail pour ce projet.
Un an, tout à fait, oui. Un an de travail, de va-et-vient, de réunion, de prise de vue, de recherche complémentaire. Notre prestataire s'est même rendu au musée Bourdal à Paris pour faire des recherches complémentaires dans le fond là-bas, pour faire des prises de vue. Donc oui, c'est un an de travail, c'est conséquent.
On est dans l'ultra-réalisme là pour cette application, cette possible visite sur un écran du château de Longzeg. On voit un peu là l'objectif de toucher un nouveau public là pour la région, un public peut-être plus jeune.
Oui, tout à fait. Définir le public cible quand on crée un produit multimédia, c'est toujours compliqué. Et c'est vrai que quand on travaille dans le domaine du patrimoine, on a plutôt l'habitude de toucher un public un peu plus âgé, on va dire. Et là, vraiment, l'objectif avec ces narrations interactives, ces nouveaux produits, on va dire, c'est d'arriver justement à toucher un public plus jeune, un public qui a plus l'habitude peut-être du jeu vidéo. Et donc, c'est ce qu'on a essayé d'intégrer dans ce projet. C'est cette dimension un peu vidéoludique, on va dire, qui permet de découvrir le patrimoine, de découvrir les archives tout en s'amusant en quelque sorte. Mmh. Et après, il faut savoir que chaque détail, chaque élément se base vraiment sur des recherches, des faits historiques. Donc voilà, c'est, rien n'est laissé au hasard.
Grâce donc à la région qui a entièrement financé ce projet pour la visite donc interactive de ce château de Longzac de Nègrepelisse. Christelle Parvillier, donc la chargée de projet médiation numérique, culture et patrimoine de la région. Un grand merci et à vendredi.
Merci
alors.
À vous. À vendredi. Merci.
CFM, c'est le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Le MAG du Pays Midi-Quercy qui se poursuit en direction du château de Longzac. On est bien à Nègrepelisse avec au programme de ce vendredi une visite inédite et interactive de ce château. Château qui est monument historique, qui est fermé au public. Château dont on parle donc aujourd'hui en compagnie de Carole Stanitsky. Bonjour Carole.
Bonjour Lisa.
Chargée de mission inventaire du patrimoine au sein du PETR. Et Arnaud Labaronne est aussi avec nous par les fils du téléphone. Bonjour Arnaud.
Bonjour à toutes les deux.
Arnaud. Extra Art qui a été missionné donc par la région pour créer cette visite interactive. L'application se balade dans le château. Votre collaboration technique, technologique et inventaire a dû être fournie durant cette dernière année.
Effectivement, on a travaillé à s'inspirer des archives et lorsqu'on ne les utilisait pas en tant que photo en fait, à placer à l'intérieur de l'expérience, on les a utilisées comme source d'inspiration pour savoir quels étaient les objets qui étaient disposés dans le château, quel avait été le travail de conception des architectes, des artisans, des entrepreneurs. Et par-dessus ça, l'histoire, c'était de trouver un scénario, des personnages, des situations, comme dans tous les chantiers, parce que comme dans tous les chantiers, on vit à chaque fois une aventure qui peut se raconter.
Oui, en fait, sur le château de Longzac, c'est une des premières œuvres de jeunesse d'un architecte montalbanais qui est bien connu ici, qui s'appelle Germain Olivier, qui était architecte du département, architecte de Montauban. Il a même été plus tard architecte des colonies. Et ça, le château de Longzac, c'est vraiment une de ses premières œuvres. Et il se trouve que dans ce château sont réunis tous les éléments de la modernité. Il y a le chauffage central, il y a l'électricité, il y a des salles de bain privatives, il y a une salle pour le téléphone. Tout ça, ça a l'air de rien, mais c'est très novateur pour les années 1900 en Tarn-et-Garonne. Donc c'est ça qui était aussi intéressant et qui a été exploité par Extra Art dans le récit multimédia, c'est cet aspect moderne de l'architecture et des progrès sociaux, techniques, qui ont été expérimentés à Longzac, et artistiques aussi évidemment.
Tous les 12 travaux d'Henriette, la propriétaire, celle qui a initié la construction de ce château.
Absolument. Alors Henriette, je vais en toucher deux mots, elle s'appelle en fait Henriette Veil-Sibiel. Elle vient de l'Aude à la base, mais elle est issue de la bourgeoisie montalbanaise. Elle est veuve rapidement à la fin du 19e siècle et elle décide seule de reconstruire ce château. Donc elle dirige la construction de cet édifice d'une main de maître, seule vraiment. C'est elle qui coordonne tous les travaux, les échanges avec l'architecte, avec les différents artisans sont connus par les documents d'archives. Cette femme est aussi la muse d'Antoine Bourdel, le sculpteur montalbanais. Donc il y a plusieurs échanges également entre eux de poèmes que Arnaud est allé dépouiller au musée Bourdel à Paris. Il sera mieux placé pour en parler que moi. Donc cette Henriette a une fille. Elle a 3 ans, sa fille Marguerite, quand son papa décède. Et Marguerite, sa fille, le but est d'achever les travaux de construction du château pour le jour de son mariage en juin 1910. Donc en effet, les travaux débutent à peu près en 1904 et s'achèvent en 1910. Et tout ça, c'est très très largement documenté.
Le château qui n'est pas là ouvert au public.
Ah non, absolument, on a oublié de le dire, mais ce n'est pas une mince affaire, c'est une clinique privée, c'est un centre de soins pour conduite addictive. Donc c'est absolument un château qui n'est pas visitable. Et c'est d'ailleurs pourquoi il y a eu ce projet de récit multimédia, puisque c'est un château qu'on n'a pas la possibilité de voir. Et la manière de le rendre accessible à tous par le biais d'une visite virtuelle était une évidence pour cette raison-là, parce qu'en effet, on ne peut pas le voir. La seule chose que les gens connaissent ici localement du château de Longzec, c'est le portail d'entrée en brique qui se trouve sur la route de Veissac, entre Nègrepelisse et Veissac. En effet, le portail d'entrée avec le muret, généralement les gens identifient uniquement cet aspect-là du château de Longzec, mais tout ce château magnifique, éclectique, et le parc qui l'accompagne n'est pas visible.
On est en train de vous prévoir, auditeur, une sortie pour ce vendredi, une sortie au château de Nègrepelisse, la cuisine, le centre d'art, où sera inaugurée, où sera expliquée l'initiation, l'instigation de la visite du château de Longzec à Nègrepelisse, aussi un château monument historique qui est fermé au public, mais qu'on peut maintenant visiter en numérique grâce à un financement de la région, au travail inventaire du service inventaire du patrimoine, notamment du PETR, du PMI Quartier. D'ailleurs, Carole Stanicki est avec nous. Et grâce au studio Extra Art de Montpellier, dont Arnaud Labaronne fait partie. Arnaud, on peut vous demander comment ça va se passer exactement cette visite? Concrètement, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir sur notre écran? Comment ça se présente, la visite d'un château en numérique? En vrai, ça peut ne pas donner très envie.
Alors, il faut que, bien qu'on fasse la différence entre une visite virtuelle, telle qu'on peut en voir aujourd'hui un petit peu partout, et puis ce que nous on appelle une visite interactive et gamifiée. À l'intérieur de l'expérience des 12 travaux d'Henriette, en fait, on suit un personnage qui est ce personnage de propriétaire donc Henriette nous emmène à travers tous les espaces du château et elle vit des aventures à l'intérieur de ces espaces qui sont liés en fait aux innovations, aux inventions en fait qu'elle est en train de mettre en place et comme sur tout chantier, sur tout projet de rénovation, on vit des émotions. Donc elle est parfois en colère parce que les artisans n'ont pas fini leur travail, elle est parfois extrêmement fière d'une réalisation et à chaque fois elle fait participer l'utilisateur via un mini-jeu à la chose moderne, la chose nouvelle, la chose inventive qui a été développée au château.
Ce que Arnaud ne dit pas, c'est que tout ce scénario qu'il a imaginé est basé sur des faits réels, parce que tous ces éléments-là sont vérifiables dans les courriers conservés aux archives départementales.
Effectivement, on a eu la possibilité en fait d'avoir accès à toutes ces archives, donc des courriers, des documents. Les courriers sont écrits soit par des artisans, soit par Henriette elle-même, soit encore par le sculpteur Bourdel qui a partagé la vie d'Henriette un petit peu avant ce chantier de rénovation. Et de cette matière-là, moi j'ai tiré en fait un scénario, des dialogues, des situations. Donc on a à la fois des personnages qui sont assez réalistes par rapport à tout ce qui était réel, et en même temps on leur a donné une couleur puisqu'il y a le personnage d'Henriette, mais il y a aussi le personnage de Germain Olivier, l'architecte, qui est plutôt un personnage un peu bourru, un peu dur. Donc on a travaillé un petit peu sur cette pseudo d'une Henriette assez enthousiasmée et fière de ce qu'elle nous montre, et puis d'un Germain Olivier un peu bourru, un peu odieux, qui est beaucoup plus droit dans ses bottes.
Avec des situations, des énigmes à résoudre, des tours de piste, et puis beaucoup de plus inventaire du patrimoine, là, des plus architecturaux, des petites fenêtres qui s'ouvrent et qui vont donner des renseignements précis sur... Alors, je suis désolée, je suis passionnée par les petites cuillères, les tapisseries, les meubles. Il y a un véritable travail... C'est concret. Je fais sourire Carole.
Oui, je souris parce que c'est pas de bol pour l'exemple, parce qu'on a ni travaillé sur les petites cuillères ni sur les tapisseries.
Voilà.
Mais c'est pas grave, ça aurait pu en fait, parce que c'est tellement bien conservé le décor et une partie du mobilier à Longzec qu'on aurait pu aller jusqu'à la petite cuillère. Mais on a choisi tous ensemble, parce que c'est vrai qu'on est nombreux sur le projet, des éléments à identifier comme le détail de la sculpture en staff qui est une technique qui est très à la mode à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Donc c'est il y a eu voilà cet élément là sinon il a fallu choisir non pas de la tapisserie mais le jeu de tennis, le gramophone, le chauffage central, qu'est-ce qu'il y a eu encore, les volets roulants, ça a l'air de rien mais les volets roulants pour fermer un espace, ça c'est pareil, c'est une invention de la fin du 19e siècle, donc il y a des éléments historiques,
Le béton armé également,
carrément.
Effectivement, on a essayé de s'intéresser en fait à la fois à des choses qui étaient plutôt de l'ordre de l'invention technique et puis des choses qui étaient aussi de l'innovation sociale qui ont changé en fait la manière de vivre de manière le confort domestique, les biens sociaux,
l'électricité
et l'électricité, ouais, tout à fait. Et on s'est amusé en fait à montrer que Henriette finalement c'était un peu une influenceuse avant l'heure finalement. Elle faisait profiter à toute la haute société montalbanaise d'innovations, d'inventions qui ensuite se répandaient parmi la couche effectivement aisée de gens qui pouvaient se permettre de financer ce type d'innovation encore assez rare à l'époque.
Voilà, et je pense notamment à la pratique de la stéréoscopie aussi, c'est une prise en photo, c'est l'ancêtre de la 3D. Donc là aussi, elle a évidemment un stéréoscope et ils prennent plusieurs clichés dans le parc et tous ces clichés, ils sont tangibles, on les a en fait, elles ont été numérisées, ces images ont été numérisées aux archives départementales et c'est à partir de cette image-là qu'Arnaud s'est inspiré pour trouver justement ces idées. Et je pense notamment à l'automobile, les premières automobiles, Henriette se fait prendre en photo devant le château dans différentes automobiles, donc il y aura aussi des informations sur cet énorme progrès technique.
Et on peut voir effectivement ces photos en relief dans l'expérience. Donc il y a une petite visionneuse 3D qu'on appelle un stéréoscope qui est présent dans pratiquement tous les espaces. Et là, on peut voir toutes les photos qui ont été prises par les photographes qui travaillaient avec Henriette.
Et puisqu'on parle 3D et photo, et ce sera ma dernière question, puisque le temps file, l'application en elle-même, donc c'est vraiment, c'est pas du dessin, hein, c'est de la photo. Vous avez pu prendre en photo l'intérieur de Château de Longzeg, et qu'on se promène à travers les pièces comme ça.
Alors, ces captations 360 du réel de Longzeg, mais aujourd'hui Longzeg c'est un centre. Donc en fait on a gommé tout cet aspect, on l'a gommé un peu au tournage et puis on l'a gommé surtout en post-production. On a remis Longzeg au goût de 1910 en fait et on a rajouté des illustrations. Donc les personnages sont des illustrations de dés, tous les décors, les objets en fait qui nous manquaient ont été rajoutés en 2D. Et donc c'est un mélange entre de la prise de vue réelle et des illustrations 2D tout le long de l'expérience.
Et des prises de vue en drone aussi, ce qui était inédit au château de Longzeg.
Effectivement, oui, on a volé au-dessus du château. C'est ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que finalement, aujourd'hui, on sait donner une réponse à un bâtiment, à un patrimoine qui a besoin d'être valorisé, mais qui ne peut pas être visité. Donc quand on ne peut pas faire de visite physique, il y a d'autres moyens, et le numérique, effectivement, nous amène, grâce au 360, grâce à la réalité virtuelle, nous amène des moyens, en fait, de valoriser ce patrimoine à travers une visite palpitante, excitante, assez unique.
Visite donc possible à partir de ce vendredi, visite du château de Longzeg, inauguration de cette application au château de Nègrepelisse, le château La Cuisine, le centre d'art et de design. On vous retrouve là-bas, Carole Stanitsky et Arnaud, la baronne, donc respectivement du service inventaire du patrimoine du PETR Midi-Quercy et du studio Extra Art de Montpellier, mandaté par la région, donc qui a financé le projet pour la réalisation de cette application. Et vous avez travaillé, on va le voir, avec aussi les archives départementales qu'on reçoit pour la suite de ce magazine. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Merci.
CFM, c'est le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Suite et dernière partie de ce MAG du pays Midi-Quercy, on est avec la chef du service archives et nouvelles technologies aux archives départementales de Tarn-et-Garonne, Laure Craig. Bonjour, alors.
Bonjour.
Vous avez largement aidé, contribué à la réalisation de cette application dont on parle depuis le début de ce MAG grâce à un fonds d'archives qui a été découvert sur ce château de Longzeg. Alors déjà, c'est quoi un fonds d'archives?
Alors, en fait, déjà, il faut savoir que les archives départementales donc, sont un service du département et nous sommes une institution culturelle qui a pour vocation de collecter, de classer, de conserver et de communiquer les archives à toutes et tous. On a donc une mission générale principale qui est de collecter les archives publiques, mais on collecte aussi les archives privées issues de toute personne physique ou morale dont l'histoire est propre à documenter la recherche historique et à valoriser le patrimoine local. Et c'est à ce titre en fait que nous avons donc que nous disposons du fonds d'archives des architectes Olivier, qui est en fait un fonds emblématique de notre service, puisque ce fonds couvre à lui tout seul l'histoire en fait de l'architecture dans le département de Tarn-et-Garonne entre 1847 et 1979. Puisqu'en fait ce sont trois générations d'architectes qui se sont succédés, donc Théodore, le père de Germain Olivier, Germain, puis Henri, son fils. Et donc à eux trois, ils ont façonné finalement l'histoire de l'architecture dans le département, que ce soit l'architecture publique ou privée, donc notamment au château de Longueuil, qui est probablement le premier projet de Germain Olivier en 1905.
Ces documents auxquels vous avez pu avoir accès, là, ça consiste en quoi ? Ce sont des plaques de verre, des dessins, des illustrations. C'est quoi concrètement ? Qu'est-ce que vous avez pu trouver dans des cartons ?
En fait, le fonds des architectes Olivier est principalement composé de plans et ce fonds s'étend sur près de 50 mètres linéaires. Donc c'est beaucoup d'archives. Il faut imaginer en fait tous ces plans mis les uns à la suite des autres, ben, ça fait 50 mètres. Et donc on retrouve voilà, principalement des plans, mais aussi des photos, de la correspondance, des factures, tout ce qui va aider en fait l'architecte à mener à bien son projet. Mais c'est principalement des plans, voilà, où on va retrouver donc les multiples croquis d'un décor architectural, mais ensuite des plans beaucoup plus aboutis qui vont voilà représenter l'ensemble des pièces d'un bâtiment ou les façades. Donc voilà, c'est principalement des plans sur du papier calque.
D'où l'importance de ne pas jeter ce qu'on va découvrir dans un grenier, dans une vieille cave sombre, et de les amener aux archives départementales de son département, les archives départementales de Tarn-et-Garonne en l'occurrence, pour ce fonds d'archives autour du château de Longueuil. Comment il a été découvert ? Comment ça s'est passé pour vous ?
Alors en fait, il se trouve qu'à l'été 2018, j'ai été contactée par le régisseur du château de Longueuil, qui avait pour but de faire classer le château. Et il ne connaissait pas du tout le nom de l'architecte du château. Et il se trouvait que par le plus grand des hasards, j'étais en train de reclasser en fait le fonds des archives Olivier. Et en voyant les photos du château de Longueuil, que je ne connaissais pas par ailleurs, je n'avais jamais vu ce château à Nécropolis, puisqu'il est assez confidentiel et je n'avais jamais pu le voir, mais avec les photos qu'il m'en a transmis, j'ai tout de suite vu que c'était vraiment la patte de Germain Olivier. Et comme j'étais en train de classer vraiment la partie qui concernait Germain, on retrouvait tout de suite le style de l'architecte. Et en fait, j'ai découvert, grâce à sa demande de recherche, un projet mais vraiment d'une ampleur inimaginable, puisque en fait, rien que pour Longueuil, il y avait près de 400 calques qui n'étaient pas du tout identifiés. Il avait juste en fait à peine le nom complet de la propriétaire, donc qui était à l'époque Henriette Weiss-Sibiel. Et le projet en fait était tout juste intitulé Weiss, mais pas du tout référencé à Nègrepelisse, ou voilà, je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. Et en fait, les plans avaient été donc rangés probablement à l'époque par Germain Olivier. Et il faut imaginer ces 400 plans qui étaient roulés ensemble, voilà, dans un même rouleau. Donc il a fallu tout vérifier, tout regarder avec beaucoup de précautions, puisque les plans calques sont très très fragiles, c'est un support très friable. Et je me suis lancée donc dans l'identification de l'ensemble de ces calques. Et c'est un peu grâce à cette demande de recherche que tout le projet sur Longueuil est parti, puisqu'on a découvert voilà une richesse absolument fantastique, et ensuite aussi par la même occasion dater le premier projet, je pense, de Germain Olivier en tant que jeune architecte diplômé.
le fonds d'archives qui donc a été largement nécessaire à la réalisation de cette application qui donc retrace, qui nous fait découvrir ce château de Longzeg qui, comme vous le disiez, est fermé au public, monument historique. Et donc certaines photos de ce fonds d'archives seront, je crois, visibles vendredi à Nègrepelisse.
Oui, ces photos anciennes en fait feront l'objet d'une exposition temporaire le temps de la soirée du vendredi 16. Elles sont issues en fait de la collection personnelle donc de Monsieur Marie, donc qui nous a gentiment prêté les plaques, hein, puisqu'en fait ce sont des plaques de verre. Et ces photos en fait ne faisaient pas partie donc du fonds des architectes Olivier. C'est après coup, en fait, une fois que j'ai découvert les plans, que nous sommes allés donc au château de Longzeg et Monsieur Marie donc nous a prêté sa collection personnelle et nous avons pu donc enrichir la documentation du château grâce aux plaques de verre qui ont été numérisées donc par les soins de notre atelier de numérisation aux archives départementales.
Alors Craig, vous êtes chef du service archives et nouvelles technologies justement au service départemental de Tarn-et-Garonne. On vous retrouve ce vendredi pour l'inauguration de cette application autour de la visite donc de ce château de Longzeg, les 12 travaux d'Henriette. Alors Craig, on vous voit ce vendredi du coup. Merci beaucoup.
Oui, merci beaucoup. Au revoir.
Oui, c'est donc ce vendredi à 20h au Centre d'art et de design La Cuisine de Nègrepelisse. Ce vendredi, la soirée de lancement et la découverte de la visite interactive scénarisée du château de Longzeg à Nègrepelisse. Les 12 travaux d'Henriette dans ce mag du Pays Midi-Quercy aujourd'hui. Le mag du Pays Midi-Quercy, c'est tous les lundis à midi, rediffusion à 17h et le samedi à 18h. Et en podcast sur cfmradio.fr.